Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Et nous continuons notre série. Nous arrivons à la cinquième lettre. Apocalypse, chapitre 3. Et nous allons lire les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je pense que vous connaissez les expressions françaises qu'on utilise parfois, l'expression « riche comme Crésus » ou « quand on est excessivement riche » ou alors « quand on touche le gros lot », on utilise l'expression « toucher le pactole ». Ces deux expressions ont un lien avec l'histoire de Sardes, le premier mot sur la feuille. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais simplement vous dire certaines choses au sujet de Sardes, une ville qui était la capitale de cette partie de la région romaine appelée Asie, et la partie qui s'appelle Lydie, si vous voulez regarder sur une carte. Et nous lisons par exemple au sujet de cette ville que sous le règne du roi Ardis, en 651 et 625 avant Jésus-Christ, de l'électrum. L'électrum, c'est un alliage naturel entre l'or et l'argent. De l'électrum a été découvert dans la rivière qui coulait à Sardes. Cette rivière s'appelle en français Pactole. Et bien sûr, les habitants ont exploité cet alliage. Et le royaume de Sardes a atteint son apogée et a étendu ses frontières au maximum sous le règne du roi Crésus. Donc en 560 et de 560 à 546 avant Jésus-Christ. Et donc Crésus et la ville de Sardes durent leur formidable fortune lorsque cet électrum, cet alliage a été traité pour obtenir de l'argent et de l'or pur. Et des recherches archéologiques ont découvert une raffinerie pour justement pouvoir séparer l'argent et l'or. Crésus a été le premier à frapper des monnaies en argent et en or. Il était si fier de ses possessions qu'il se vantait en montrant ses richesses à ses visiteurs. Mais ce roi Crésus était inquiet de la puissance grandissante de Perse. Et il décida de faire la guerre à Cyrus le Grand, le roi, l'empereur perse, que l'on retrouve par exemple dans les livres de Daniel et Ésaïe. Et avant de partir, Crésus fait de généreuses offrandes au temple d'Apollon à Delphes, où la prêtresse, qu'on appelait la Pythie, lui dit que s'il entrait en guerre contre Cyrus, un grand empire serait détruit. Et voici comment Hérodote, un historien grec du siècle suivant, raconte l'histoire. Il dit, au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, Crésus, riche roi d'Asie mineure, voulut faire la guerre au roi de Perse, Cyrus, dont la puissance grandissante l'inquiétait. Il envoya des messagers à Delphes qui demandèrent à la prêtresse d'Apollon, la Pythie, si leur roi devait partir en guerre. La Pythie répondit, « Si Crésus fait la guerre, il détruira un grand empire. » Satisfait, Crésus fit de nombreux cadeaux au sanctuaire, prit les armes contre les Perses, mais fut vaincu et fut prisonnier par Cyrus. Libéré, il envoya des messagers à Delphes se plaindre qu'Apollon l'avait trompé. La Pythie leur répondit, « Crésus aurait dû demander au dieu quel empire serait détruit, le sien ou celui de Cyrus. » Cyrus n'est pas surnommé Cyrus le Grand par hasard. Et donc Cyrus va remporter la victoire sur Crésus et c'est le début de la fin du royaume de Sardes. Un royaume qui était connu donc, pour sa richesse, pour sa puissance, mais qui a perdu les deux. Et quand on regarde les documents, quand on feuillette aujourd'hui l'Internet, on ne feuillette pas l'Internet, mais quand on va sur Internet et qu'on regarde les différentes pages concernées au sujet de Sardes, on voit qu'il y avait aussi autre chose qui était caractéristique de la ville de Sardes. Il y avait une nécropole, un cimetière tellement grand qu'il était appelé la ville des mille collines. Et dans ce cimetière, il y avait des tumuli royaux. Un tumuli, pluriel de tumulus, c'est un amas artificiel de terre ou de pierre qu'on élève au-dessus d'une sépulture. Il y avait dessus parfois un monument. Et d'après Hérodote, qu'on a cité tout à l'heure, le plus important des tumuli avait un diamètre de 355 mètres et une hauteur de 69 mètres. Donc les collines étaient quand même plutôt impressionnantes. Et quand Jésus s'adresse à Sardes, il s'appuie sur ces éléments. Et il s'appuie sur l'histoire, il s'appuie sur la topographie. Quand il s'adresse à cette église de Sardes, il dit au verset 1, « Tu passes pour être vivant et tu es mort. » Cette église avait une réputation, deuxième mot sur la feuille. Mais comme le cimetière de Sardes avait 1000 collines, Jésus rappelle qu'une église peut avoir 1000 membres ou plus et être aussi morte que ceux qui remplissent un cimetière. Jésus utilise donc l'histoire et la topographie de cette ville. Nous l'avons déjà vu, quand il s'adresse aux autres églises. Et cela souligne encore une fois, on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter, que ces lettres s'adressent à des églises qui, au 1er siècle, étaient des églises réelles. Et chaque lettre est adaptée à l'église qui est une église réelle. Beaucoup de personnes tout au long de l'histoire, mais peut-être encore plus particulièrement aujourd'hui, disent que l'Apocalypse concerne des événements futurs qui se limitent à la génération qui précède le retour de Jésus-Christ. Et que ceci, tout cela n'est qu'un type. Mais nous l'avons déjà vu, que cela n'est pas le cas. Et que quand Jésus écrit par la plume de Jean, il écrit bien d'abord à des églises du 1er siècle, des églises qui sont bien réelles. Et ici, donc, il s'adresse à l'église qui est à Sardes. La condition, premièrement, donc, de cette église, c'est que cette église avait peut-être une réputation, mais il n'y avait pas de substance. L'église avait un nom, mais pas de vie, pas de réalité. On peut imaginer différentes choses qui ont pu contribuer à donner une réputation à cette église. Vu la situation, vu l'histoire, c'était une église peut-être avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Il y avait sans doute beaucoup de personnes influentes qui étaient membres de l'église. Une église sans doute très active. Et on retrouve les mêmes choses aujourd'hui. On entend parler d'églises qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'activités, beaucoup de choses se passent. Mais très souvent, la réalité d'aujourd'hui est la même que la réalité d'alors. L'Église a une réputation d'être vivante, mais elle est morte. Troisième mot sur la feuille. Elle est morte. Comme je dis, c'est la cinquième lettre dans cette série de sept lettres. Et dans cette lettre, il n'y a pas d'éloge, pas de compliment pour cette Église. Pourtant, quand on lit cette lettre, quand on regarde la situation, il n'y a pas de menace de persécution comme à Smyrne. Il n'y a pas de faux enseignements bien spécifiques comme à Pergame. La situation est plutôt calme en ce qui concerne la ville de Sardes. Et certains suggèrent même que le calme existait parce que Satan n'était pas préoccupé par cette église. Elle ne méritait pas son attention. C'était une église morte. Un commentateur écrit ceci, « L'église était très paisible, mais sa paix était celle d'un cimetière. » L'église de Sardes est une église de nom. Elle porte un nom, mais elle ne possède pas la vie. Les membres de cette église professent la foi, mais Christ ne règne pas dans leur cœur. Et le Seigneur explique cela quand il dit au verset 4, « Cependant, tu as Sardes, des quelques hommes, quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Il donne la raison. La plupart des membres de cette église ont souillé leurs vêtements, quatrième mot sur la feuille. Ils ont souillé leurs vêtements en se mélangeant avec le monde. Un commentateur dit ceci, « Presque toute l'Église avait capitulé devant le monde et sa religion païenne. Au lieu d'être une influence sur le monde, c'est l'Église qui a été influencée par le monde. » Cela rejoint ce que Spurgeon disait, qui disait que l'Église a si peu d'influence sur le monde parce que le monde a trop d'influence sur l'Église. Et ça se voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des origines de ce monde, que ce soit sur la nature humaine, sur l'éducation, sur le culte, sur le salut. L'Église, dans le sens général, est influencée par le monde. Cela décrit malheureusement bien trop d'Églises évangéliques aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'Église, dans un sens général, influence notre société. Trop souvent, ce qu'on voit, c'est que la société d'aujourd'hui influence l'Église. Le monde détermine ce que l'Église doit penser, ce que l'Église doit proclamer, comment le croyant doit vivre, ce qu'il a le droit de dire, comment il doit adorer Dieu, etc. C'était le cas pour l'Église de Sardes. Le Seigneur dit au verset 2, « Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Le terme ici de « parfait » ou de « complet », quand Jean l'utilise, a aussi l'idée d'être une œuvre pleine, cinquième mot sur la feuille, remplie. Et ce que Jean dit, ce que le Seigneur dit par la plume de Jean, c'est que l'Église brasse de l'air. Les œuvres sont vides. Elles n'ont rien. L'Église est peut-être active, mais il n'y a aucun contenu. Il n'y a rien, il n'y a aucune substance. Et cela va peut-être impressionner le monde par toute cette activité, mais devant Dieu, tout cela est vide. Quand on étudie cette église de Sardes, on peut penser à d'autres lieux, d'autres églises qui sont décrites de cette manière. Par exemple, quand Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée 3, il parle des difficultés que Timothée devra faire, auxquelles Timothée devra faire face. Et il écrit dans les versets 1 à 5, Il dit ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et surtout ceci, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Et quand Paul écrit cela, il ne décrit pas une culture, mais il décrit bien l'Église. Il parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. On ne peut pas dire cela d'un croyant. On dit cela de personnes qui professent la foi en Christ. Il y a une apparence, mais il n'y a rien. C'est vide. Il y a une réputation, mais il n'y a aucune réalité. Et quand il n'y a pas cette réalité, quand il n'y a pas la vie réelle, la vie en Christ, le péché s'engouffre et provoque et cause des ravages par l'erreur, le faux enseignement. Un commentateur dit ceci, l'Église donne l'apparence d'être prospère, occupée, impliquée dans beaucoup d'activités, mais elle ne possède ni la vie, ni la puissance spirituelle. Et c'est malheureusement une chose très répandue aujourd'hui. Ah, bien sûr, on se pose la question, mais comment est-ce que cela est arrivé? Comment est-ce que cela peut arriver? Comment est-ce qu'une Église peut arriver à ce point? Comment une Église peut-elle mourir? Ça nous amène au deuxième point. Rappelez-vous, nous sommes à la fin du 1er siècle, vers l'an 95 après Jésus-Christ, quand Jean écrit ce livre de l'Apocalypse et va l'envoyer donc aux différentes églises. On ne sait pas comment l'église de Sardes a vu le jour. On peut imaginer que cela soit par le biais de l'église d'Éphèse, qui semble être l'église mère, qui a rayonné dans toute cette région. Cette église qui était bien enseignée avec des hommes comme Paul, l'apôtre Paul lui-même, avec Timothée et puis ensuite l'apôtre Jean. Et au bout d'une génération, voilà que Jésus s'adresse à cette église de Sardes et dit « Tu es morte ». Comment est-ce que cela peut arriver? On peut donner trois explications, à partir de l'histoire de cette ville. Une église ou des églises meurent parce qu'elles ne veillent pas. Sixième mot sur la feuille. Les églises meurent parce qu'elles ne veillent pas. On a parlé tout à l'heure du roi Crésus qui s'engage, qui va en guerre contre Cyrus le Grand. Et après être défait, Crésus retourne à Sardes pour rassembler les troupes. Alors Sardes, comme beaucoup de villes en Grèce antique, la ville était d'abord construite sur une colline, et puis bien sûr, en grandissant, la nouvelle ville était au pied de la colline. Et donc il se réfugie dans cette l'ancienne ville, sur la colline, et la colline de Sardes a des parois verticales. Il n'y a qu'une seule route d'accès, facilement fortifiable, et qui est fortifiée. Il y a une petite faille sur le côté, mais ils estiment que cela représente, cela donne 1 pour 1000 les chances que quelqu'un monte par là, donc ils ne s'en inquiètent pas. Ils fortifient cet accès unique à la ville ancienne. Et donc Crésus s'y réfugie et Cyrus, avec son armée, vient, entoure la colline. Et effectivement, ce sont devant le fait que cela semble être imprenable. Et on lit ceci, que la tradition raconte comment Cyrus s'emparera de Sardes. Il offrira une importante récompense à celui qui trouverait le moyen de rentrer dans la ville fortifiée, réputée imprenable. Un soldat perse apercevra un Sarde laisser tomber son casque qui roulera le long de la paroi. Il réapparaîtra quelques instants plus tard au pied de la montagne pour récupérer son bien. Le soldat perse se dira que si le Sarde pouvait descendre la pente, alors les Perses pouvaient la remonter au même endroit. Un petit groupe de soldats de l'armée perse empruntera ce chemin et escaladera la montagne la nuit tombée. Ils trouveront la citadelle sans garde et la ville tombera aux mains de Cyrus. Cette faille dans la paroi réputée imprenable, finalement, n'était pas aussi imprenable que cela. Et on pense que la ville de Sardes aurait appris la leçon. Mais il n'en est rien. La même chose va se répéter 200 ans plus tard. Un des généraux d'Alexandre le Grand avait assiégé l'ancienne ville de Sardes et rencontre le même problème, réalisant que l'accès à l'ancienne ville était très difficile. L'armée de ce général d'Alexandre le Grand a observé, même chose, ils ont vu quelqu'un descendre la pente, ils se sont dit qu'ils pouvaient effectivement refaire la même chose, et ils sont montés, ont trouvé la citadelle sans garde, et ont pris la ville. Une deuxième fois. Et c'est ce qui se passe dans bien des églises. Cette ville de Sardes pensait être imprenable, mais la ville de Sardes a été prise parce qu'elle ne veillait pas. Elle ne veillait pas, elle ne gardait pas toutes ses murailles. Même là où elle pensait qu'il y avait peu de possibilités d'avoir une attaque, elle n'a pas veillé. Et les églises doivent veiller. La parole de Dieu nous exhorte non seulement les églises, mais les croyants, les familles, mais aussi les croyants, chacun individuellement, de veiller sur l'enseignement, septième mot sur la feuille. Sur ce qu'on lit, sur ce qu'on entend, sur ce qui est enseigné dans l'Église. Si on ne le fait pas, l'hérésie, le faux enseignement va progressivement entrer dans une Église. C'est ce que Paul va par exemple dire aux anciens d'Éphèse, quand il les voit pour la dernière fois avant de partir en acte 20. Il dit au verset 30, « Il s'élèvera du milieu de vous ». Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Veillez donc. Veillez sur l'enseignement. Ne pas veiller sur l'enseignement, c'est s'exposer à être entraîné par toutes sortes de doctrines, et en particulier par un faux enseignement qui amène petit à petit l'Église à mourir. Mais aussi veiller sur la tentation de péché, huitième mot sur la feuille. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a enseigné. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Veillez et priez. Si on se contente de faire ce que les autres font, si on se contente de suivre les pratiques qui existent aujourd'hui, on court le risque de la destruction. Veillez sur notre vie. L'Église doit veiller, doit combattre ce processus que je dirais naturel à cause du péché, ce processus qui est très lent, qui est souvent peu visible, mais un processus qui pousse l'Église à se fondre avec le monde. Et l'Église doit veiller et combattre cela. Le Seigneur Jésus dit en Luc 21, verset 24, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les soucis de la vie. » Si nous ne sommes pas vigilants, nous allons découvrir un jour que quelqu'un est passé par-dessus la muraille ou que quelqu'un a utilisé la faille pour monter et ouvrir les portes et amener la destruction. Si les responsables de l'Église ne veillent pas, l'Église est détruite. Si les parents d'une famille ne veillent pas sur leurs enfants, s'ils ne sont pas vigilants, s'ils ne discernent pas les influences que peut avoir le péché, s'ils branchent leurs enfants sur les médias, simplement, et les laissent sans discernement, c'est inviter la destruction dans la famille. Mais c'est aussi vrai sur le plan individuel, sur le plan personnel. Veillez afin de ne pas être détruit par les ruses de l'adversaire. Des églises meurent parce qu'elles ne veillent pas. Deuxièmement, des églises meurent quand elles ne s'appuient que sur leur réputation au lieu de cultiver une foi vivante. Neuvième mot sur la feuille. Au lieu de cultiver une foi vivante en Christ. Il n'y a aucun héritage spirituel qui peut remplacer une fidélité quotidienne, présente, actuelle, dans une foi vivante dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun héritage. On ne peut pas vivre sur un héritage. On doit vivre avec une foi présente. On ne peut pas mettre notre confiance dans un passé, dans un nom aussi glorieux soit-il que nous portons, dans le fait d'être membre d'une dénomination qui peut-être a été bénie dans le passé, d'avoir été baptisé par un prédicateur de renom. Non, ce qui compte, ce n'est pas une réputation. Ce qui compte, c'est une foi réelle. Une foi vivante dans le Seigneur Jésus-Christ, une foi qui se vit au quotidien, jour après jour. Les églises meurent parce qu'elles s'appuient sur une réputation. Des églises meurent aussi, troisièmement, parce qu'elles poursuivent des choses qui sont vaines, au lieu de poursuivre les véritables richesses du salut qui est en Jésus-Christ. Dixième mot sur la feuille. Jésus dit à cette église, tes œuvres sont imparfaites, elles sont vides. Beaucoup d'églises sont préoccupées par des activités secondaires. Elles sont tombées dans un activisme qui détourne de l'essentiel. Elles vont passer du temps sur des choses qui détournent de l'essentiel, sur la programmation musicale. Ah, il faut que la qualité soit aussi bonne que la qualité que l'on trouve dans le monde. Alors on va investir dans des instruments de qualité, etc. Plutôt que d'investir dans la proclamation de la parole. On va investir dans les activités sociales. Ces choses ont peut-être une place, mais elles ne remplacent pas une foi vivante dans le Seigneur Jésus-Christ et une proclamation du salut en Christ seul. Si une église se focalise sur les choses secondaires, elle court à sa destruction. Ce qui nous remplit, quelqu'un a dit, ce sont la foi en Christ, l'adoration de Dieu par Christ, la puissance pour vivre qui nous vient de Christ et le service qui est rendu à Christ. Ce sont ces choses qui créeront une réputation qui soit accompagnée d'une vitalité, d'une vie et pas d'une réputation vide. Sans ces choses, une église meurt. Troisièmement, comment ranimer une église qui est sur le déclin? Le message que Jésus adresse à cette église nous donne une méthode, si on peut utiliser ce terme. Les versets 2 à 3 sont très importants. Ils sont importants à tout moment, mais ils sont plus particulièrement importants dans une situation où l'Église est mourante. Nous avons ici les 5 impératifs de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec un avertissement. Versets 2 et 3. « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. » Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Comment ranimer une église qui meurt? Tout d'abord, premièrement, il y a ce commandement donc qui est adressé aux croyants qui s'endorment. Sois vigilant. Ou le commandement de se réveiller. 11e mot sur la feuille. Le fait que nous trouvons cet appel ici montre qu'il existe à Sardes, dans l'église de Sardes, il existe encore un reste de vrais croyants. Les incroyants qui sont morts ne peuvent pas se réveiller. Ils ont besoin de recevoir la vie. Ils ne peuvent pas être vigilants. Non, ils doivent être ressuscités. Donc ici, il est question de vrais croyants, mais qui s'endorment, qui ne vivent pas avec le zèle qu'ils devraient avoir. Et Jésus leur dit, réveillez-vous. Un commentateur dit ceci, le réveil de l'Église commence toujours avec un petit nombre qui se réveille et prennent conscience de la condition de ceux qui sont autour d'eux et qui commencent à s'en préoccuper. Et c'est ce que notre génération a besoin. Des chrétiens qui se disent, des croyants, des enfants de Dieu qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Dans l'Église locale, mais dans l'Église aussi, dans le sens général. Nous devons nous préoccuper du royaume de Jésus-Christ avant toute autre chose. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Annoncer les vérités de Christ et du salut accompli parfaitement par lui. Annoncer la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. L'église de Sardes est tombée parce qu'elle ne veillait pas. Elle ne peut être réveillée que par une foi vivante à nouveau en Christ. Réveillez-vous, dit le Seigneur Jésus-Christ, sois vigilant. Mais il dit ensuite, deuxièmement, que doit faire un chrétien réveillé? Il dit, mais affermis le reste qui est prêt de mourir. Quand une église est faible, quand un chrétien même, sur le plan individuel, est faible, il a besoin d'être fortifié, il a besoin d'être affermi par la grâce de Dieu. Comment? Nous parlons souvent des moyens ordinaires de la grâce, ces choses que Dieu a données et qu'il a promis de bénir. Et on commence par la parole. On commence par sa parole, 12e mot sur la feuille. Pierre écrit, par exemple, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 23, que nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit que tout à l'heure, que la situation à Sardes ressemble à ce que Paul a décrit à Timothée en 2 Timothée 3, quand il parle des temps difficiles qui vont arriver, et qu'il a dit qu'il y aura du milieu de l'Église, du milieu du peuple de Dieu, certaines personnes qui auront l'apparence de la piété, mais qui en renieront de ceux qui ont fait la force. Et qu'est-ce que Paul va dire à Timothée ensuite? Est-ce qu'il va lui dire de mandater une étude de marché pour savoir comment il faut changer la vie de l'Église, comment il faut adapter le culte pour le rendre plus accessible au monde? Est-ce qu'il va mettre sur pied un programme pour que l'Église soit attirante aux yeux du monde? Non, Paul va dire à Timothée, verset 14, 2 Timothée 3, verset 14, « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Et au verset, chapitre 4, et verset 2, il dira « Prêche la parole. » Et bien sûr, il donne la description de cette parole dans les versets, ce passage que nous connaissons, le chapitre 3, versets 15 et 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Affermir le peuple de Dieu, sanctifier le peuple de Dieu par la parole. C'est par la parole que l'Église est séparée du monde et séparée pour Christ. Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a prié en Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans une situation terrible, une situation où la majorité n'est intéressée que par les choses qui font du bien à l'oreille, des choses pas si différentes que les choses du monde, il n'y a qu'une chose à faire, prêcher la parole. Prêcher la parole de Dieu. Et cela est illustré, par exemple, de manière très claire par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Vous vous rappelez peut-être de ce passage, quand l'Éternel lui dit d'aller prophétiser dans la vallée remplie d'ossements. Il fait face à une scène pas très attirante. Il voit des cadavres en décomposition, il voit des ossements. Image de l'église de Sardes, d'une église morte, l'image de beaucoup d'églises. Et Dieu dit en Ézéchiel 37, verset 4, « Prophétise sur ces os, sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » On peut très bien imaginer des personnes autour d'Ézéchiel dire au prophète, « Ézéchiel, ton auditoire ne t'entend pas. Tu prêches à des ossements, des personnes, des ossements, des vides, des corps en décomposition. Qu'est-ce que tu fabriques ?» Ézéchiel répondrait, « Je prêche la parole de Dieu. » Et nous disons donc plus loin, Ézéchiel 37, qu'alors que le prophète prêchait, nous disons au verset 10, « L'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Et Jésus dit à l'église de Sardes, aux croyants, à son peuple, encore présents dans cette église morte, il leur dit, affermis, affermis ce qui est près de mourir, affermis par la prédication de la parole. C'est une chose que nous devons réaliser. Notre priorité, ce n'est pas le social, c'est l'annonce de la vérité. C'est la parole de Dieu. Par sa parole, Dieu affermit son peuple. Il sépare son peuple pour lui, et il le sépare du monde. Mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous, personnellement, individuellement. Comment est-ce que je peux être utilisé par Dieu? Comment faire une différence dans ce monde en étant affermi par la parole de Dieu, séparé du monde et séparé pour Christ? Par Dieu qui applique cette parole, l'Esprit de Dieu qui applique cette parole à notre cœur, et pas par des soi-disant expériences spirituelles qui n'ont aucun contenu. Il y a d'autres moyens, mais il faudra qu'on y revienne un autre jour. Il y a le moyen de la prière. Reconnaître que nous ne pouvons rien sans Dieu, que nous avons besoin de lui. Prier comme le prophète Samuel, le Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et nous laisser utiliser par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais donc voilà le deuxième impératif, affermis ce qui est sur le point, ce qui est le reste qui est près de mourir. Troisième chose que Jésus dit, rappelle-toi, 14e mot sur la feuille. Rappelle-toi, réveille-toi, sois vigilant, affermis et rappelle-toi. Mais se rappeler de quoi? Il le dit. Rappelle-toi donc, comment tu as reçu et entendu la parole? Ces croyants de Sardes devraient se rappeler, d'une part, non seulement les vérités de l'Évangile qu'ils ont entendues et qu'ils ont crues, et qui a réjoui leur cœur, mais ils devraient aussi se rappeler du Seigneur Jésus-Christ lui-même. et de sa puissance, de sa capacité de sauver et de leur donner la puissance de l'Esprit. Pour les aider à vivre, c'est sans doute la raison pour laquelle Jésus se présente de cette manière, la manière dont il le fait dans le verset 1. Il dit, voici celui qui a ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Nous avons vu au début de cette lettre que les sept esprits est une image de toute la plénitude des dons et des manifestations de l'Esprit de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et donc certains se demandaient, certains peut-être se demandent aujourd'hui, mais comment est-ce que Christ peut m'utiliser? Est-ce que si j'essaye de témoigner, est-ce que cela va marcher? Jésus rappelle à ses disciples, il rappelle à ses enfants, il nous rappelle encore aujourd'hui, « Je suis celui qui a les sept esprits de Dieu. » Je suis celui qui tient dans sa main toute la puissance de l'Esprit Saint et qui peut donner la vie même à des ossements, comme il l'a fait dans l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, le récit d'Ézéchiel. En se rappelant de cela, en se rappelant que c'est Dieu, c'est Christ par l'œuvre de l'Esprit qui peut donner la vie, cela nous encourage à continuer dans notre témoignage, mais aussi à nous appuyer uniquement sur lui. Nous ne pouvons pas donner la vie. Nous ne pouvons pas changer les cœurs. Lui le fait. Le quatrième impératif, le quatrième et cinquième, elle dit ensuite, garde-la, c'est-à-dire obéis cette parole. Quinzième mot sur la faille. Obéis cette parole et repens-toi. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, ni même d'être d'accord avec ce que dit la parole. Non, il faut obéir. On montre cette notre foi. Cette notre foi, cette foi que Dieu nous donne, cette foi qui s'accroche à Christ, se révèle par des œuvres que Dieu a préparé d'avance, comme nous le rappelle Éphésiens chapitre 2. Et en plus, cette église de nom, qui avait une réputation, doit se repentir des choses qu'elle avait mises à la place de Christ. Et nous aussi, si Christ n'occupe pas la première place, nous devons nous humilier et confesser et demander pardon. Ces choses ne sont pas des options. On ne peut pas dire, j'aime bien les trois premières. J'aime bien les trois premières, oui, sois vigilant, réveille-toi, affermi, rappelle-toi, d'accord. Mais les deux dernières, garder, obéir et se repentir, on ne peut pas choisir, ça forme un ensemble. C'est un ensemble. Mais Christ donne la grâce à ses enfants, aux siens, de pouvoir le faire. Et l'avertissement, verset 3, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Le Seigneur Jésus-Christ va visiter ces églises. Il va visiter les églises qui sont désobéissantes, qui ne veulent pas se repentir, et il exercera la discipline. Et celles qui n'acceptent pas cette discipline verront que le Seigneur Jésus-Christ enlèvera le chandelier. C'était la menace qui était adressée à l'église d'Éphèse au début du chapitre 2, dans la lettre aux Éphésiens, la lettre à l'église d'Éphèse, donc Apocalypse 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Jésus donc lance cet appel aux croyants. Réveillez-vous, soyez vigilants, affermissez ce qui est sur le point de mourir. Rappelez-vous de la parole que vous avez reçue. Rappelez-vous du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Gardez sa parole, repentez-vous. Sinon, j'enlèverai le chandelier. Cela nous amène à un quatrième point. Simplement, en passant, mais qui est important, il faudra peut-être le coup d'y revenir un jour. Ce quatrième point, où dans cette lettre à Sardes, on voit que Jésus souligne la valeur, 16e mot sur la feuille, la valeur d'un vrai croyant. On le voit dans la ferveur du Seigneur Jésus-Christ lui-même à la fin du message. Même si l'Église dans son ensemble est morte, il y a un reste qui est fidèle, un reste qui vit dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui a besoin d'être réveillé. Et Jésus dit au verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Ici, ce sont les vrais croyants. Les vrais croyants, pas seulement ceux qui ont une réputation ou une façade, mais les vrais croyants qui vivent dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas tombés sous l'influence du monde, qui ne sont pas tombés dans les péchés flagrants dans lesquels sont tombés les chrétiens de nom. Et Jésus dit que ces chrétiens, ces croyants sont dignes. Il ne dit pas qu'ils sont parfaits, 17e mot sur la feuille. Il ne dit pas qu'il s'adresse à des chrétiens qui sont sans péché. Mais il dit qu'ils sont fidèles, que ce sont de vrais, de véritables enfants de Dieu. Ils persévèrent avec l'aide de Dieu dans une vie d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, du salut par les œuvres, mais ils pratiquent des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ils manifestent leur foi par des œuvres qui témoignent de cette vie nouvelle, et ce n'est pas une façade. Certains pourraient se dire aujourd'hui, « Mais moi, ça ne me concerne pas, je me suis souillé avec le monde, j'ai fait des choses terribles. Comment est-ce qu'on peut obtenir des vêtements blancs ?» On obtient des vêtements blancs à la croix. À la croix du Seigneur Jésus-Christ. On s'approche de Christ avec nos péchés, aussi lourds soient-ils. On confesse, on reconnaît que l'on est pécheur devant Dieu. Et Christ nous lave plus blanc que la neige. Il pardonne à ceux qui viennent à lui par la foi. Il lave nos habits dans le sang qu'il a versé à la croix. Nos habits deviennent plus blancs que la neige. Nous sommes appelés à vivre dans le monde. Ensuite, et Paul écrit par exemple en Éphésiens 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et quelle est cette manière digne de marcher? C'est de marcher avec une dévotion, un remerciement, une gratitude envers Dieu pour la vie nouvelle qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Ce n'est pas la cause de notre salut, mais c'est le résultat de la grâce de Dieu qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, en nous donnant cette vie nouvelle. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le Seigneur Jésus-Christ s'attarde sur cette église de Sardes, une église, comme nous avons dit, une église qui est morte, mais une église où il y a un reste. Et ce ne sont pas des chrétiens parfaits auxquels il s'adresse, puisqu'il les exhorte à se réveiller, à affermir ce qui est sur le point de mourir, à se rappeler. Donc ils sont loin d'être parfaits, mais il s'agit de vrais chrétiens. 18e mot sur la feuille. Pas des chrétiens de façade. Et il dit, ils sont dignes. Parfois, on est amené à penser que nous avons failli, que nous sommes faibles. Et on se dit que, oui, Jésus m'a pardonné, mais finalement, je vais rester un chrétien de deuxième classe. Jésus dit à son peuple, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui n'ont pas écouté le monde, même s'ils sont faibles, même s'ils sont loin d'être parfaits. Il dit, ils sont dignes. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang et ils marchent avec moi. Ils vivent et veulent vivre d'une façon qui m'honore. C'est très, très encourageant de voir ce verset dans cette lettre. Si le Seigneur avait dit cela, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes, si on avait ce verset dans une autre lettre adressée à une autre église en bien meilleure santé spirituelle, on aurait pu se dire, bah oui, forcément, ils en sont dignes, mais nous ne le sommes pas. Non, Jésus s'adresse à une église qui est morte, une église où la majorité a suivi le monde, une église pour laquelle il n'a aucune éloge, aucune parole de louange, mais il s'adresse à de véritables enfants de Dieu, à des croyants, à ceux qui sont revêtus de vêtements blancs. Et il dit, eux, ils marcheront avec moi. Eux, ils marcheront avec moi. Si nous sommes venus à la croix, si nous avons laissé nos péchés au pied de la croix du Seigneur Jésus, si nous croyons en lui et en son œuvre de substitution, nous pouvons être assurés que le Seigneur dira aussi de nous, vous êtes dignes. Cette dignité ne vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Et nous arrivons au cinquième et dernier point, la promesse ou les promesses du Seigneur Jésus pour son peuple. Jésus promet une récompense à ceux qui vaincront par l'obéissance à sa parole. Il donne trois grandes promesses dans le verset 5 et comme il le fait dans toutes les lettres, il souligne que cela est vrai pour toute l'Église, comme il le dit au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Cela concerne toute l'Église. Mais notez qu'il n'y a pas de condition. Très souvent, ce verset est mal compris. Mais il n'y a pas de condition. Il ne dit pas « si vous êtes vainqueur ». Il dit « celui qui vaincra ». C'est pas quelque chose qui dépend, il n'y a pas une condition. Non, le véritable enfant de Dieu est vainqueur parce que Christ est vainqueur. Et il y a trois promesses. Tout d'abord, par rapport à cet habit, ce vêtement blanc, un symbole de pureté, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et plusieurs choses qui sont liées à ces vêtements, mais ce qui compte, l'idée centrale, c'est que ce vêtement blanc représente la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ, qui est imputée au croyant, qui est mise sur le compte du croyant. Et elle nous est donnée. Et la merveilleuse réalité, c'est que c'est que Dieu nous voit déjà aujourd'hui revêtu de cet habit, revêtu de ce vêtement blanc, 19e mot sur la feuille. Nous ne serons jamais plus justes. Bien sûr, nous allons progresser, nous allons croître dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne serons jamais plus justes. Puisque dès aujourd'hui, si nous croyons, si nous avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, si Dieu nous a fait cette grâce, nous sommes revêtus de la justice de Christ. Et Dieu nous voit déjà revêtus de cet habit. Deuxièmement, il nous dit, je n'effacerai point son nom de livre de vie. C'est surtout ce verset qui est souvent mal compris, cette partie du verset. Ce verset ne dit pas que certaines personnes élues viendraient à perdre leur salut et que leur nom serait effacé du livre de vie. Les Arméniens, ceux qui prêchent un salut centré sur l'homme, tordent ce verset dans ce sens. Et d'autres imaginent même des tractations entre un camp et l'autre, et les âmes qui vont d'un camp et de l'autre. Il n'y a rien de ça. Que dit le texte? Le texte dit ceci: je n'effacerai point son nom. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de si. Il dit: celui qui vaincra, qui est-ce qui est celui qui va vaincre? C'est celui qui est en Christ. C'est celui qui appartient à Christ. Le point ici qui est fait, c'est la sécurité, 20e mot sur la feuille, la sécurité des croyants. Une sécurité éternelle qui ne dépend de la souveraineté de Dieu, qui dépend de son élection. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne perdront jamais leur position devant Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est uni à Christ et pour toujours. Christ a choisi son peuple avant la fondation du monde, avant même que nous ne le connaissions. Les noms des incroyants n'ont jamais été écrits dans le livre de vie. Seuls les noms du peuple de Dieu. Et donc les noms des incroyants ne seront jamais effacés puisqu'ils n'ont jamais été écrits. Christ a inscrit les noms de son peuple dans le livre de vie avant la fondation du monde et il ne les effacera jamais. Ce qui nous amène au troisième point, la troisième promesse. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et on voit ici donc la valeur encore du croyant aux yeux de Christ. Nous n'avons peut-être pas une grande réputation aujourd'hui, mais pour Christ, nous comptons. Dans le passé, le Seigneur Jésus-Christ a écrit notre nom, comme nous venons de le voir dans le livre de vie. Il nous a connus d'avance. Pensez à ces passages comme Éphésiens 1, verset 5, ou Romains 8, verset 29. Il nous a aimés, il nous a choisis pour la gloire. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort pour son peuple, il est mort pour son Église, pour son épouse. Il a racheté son peuple et seulement son peuple. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait derrière le voile. Il avait sur lui les 12 pierres inscrites avec les 12 noms des tribus parce qu'il venait au nom représenter le peuple. Et il offrait, et il versait le sang sur le propitiatoire. Quand Jésus s'est présenté devant son Père, il est venu avec nos noms inscrits sur lui. Et il a confessé nos noms, 21 mots sur la feuille. Il a confessé nos noms devant le Père, devant les anges, lorsqu'il s'est présenté devant lui. Et au jour du jugement, il proclamera encore une fois nos noms. Il dira: celui-ci est à moi, celle-là est à moi. Le prix a été payé pour elle, le prix a été payé pour lui. Ils sont rachetés, ils sont à moi. Personne, personne ne pourra nous séparer du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela donc soulève une question. Comment est-ce que je peux savoir si cela est vrai pour moi? Comment est-ce que je peux savoir si le Seigneur Jésus-Christ va confesser mon nom devant le Père au jour du jugement? Et la réponse est, si par la grâce de Dieu, il nous a donné une foi vivante, une foi persévérante dans le Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie de ceux qui vont vaincre, parce que nous sommes unis à celui qui a vaincu. Nous sommes unis à celui qui est plus que vainqueur, et nous serons de ceux qui vont vaincre. Avoir une réputation, cela peut impressionner le monde, mais cela n'impressionne pas Dieu. Ce qui compte, c'est une foi. De 22e mot sur la feuille, une foi vivante en Jésus-Christ, une foi qui se manifeste par une vie d'obéissance à sa parole, qui veille sur l'enseignement, qui ne poursuit pas les choses secondaires, mais qui est centrée sur Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie. Voilà la leçon qu'il faut apprendre de cette lettre adressée à l'église de Sardes, une église morte dans laquelle il y a quand même un reste. Mais ce qui compte pour nous, c'est de ne pas ressembler à cette église, de ne pas seulement avoir une réputation, mais d'être vivant, de proclamer, d'affermir par la proclamation de la parole, d'affermir le peuple de Dieu, de vivre dans une foi quotidienne, vivante, cette nouvelle vie que nous avons en Christ, d'être centré sur lui et sur lui seul, et de ne pas courir après les choses secondaires. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais l'heure passe trop vite. Mais Dieu, que Dieu donc nous aide à saisir cela, à comprendre cela, et à le vivre pour sa gloire. Amen.